littérature,
cybernétique,
avenir,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future. Any future.
Le podcast des Utopiales. Utopiales 2021. Biologie prédictive. Blandine Comte.
Alors, bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir d'avoir autant de monde que ça aujourd'hui. Puis, écoutez, je vais vous parler de biologie prédictive aujourd'hui, mais pas que. Puis je vais vous faire essayer de vous faire voyager. Alors, je ne suis pas une spécialiste de science-fiction du tout, du tout. Je ne suis pas une spécialiste, je suis juste une biologiste qui travaille sur... je vais me présenter en deux, trois mots. Donc, je suis Blandine Comte, je suis chercheure à l'INRAE. Ce qui m'intéresse depuis un certain nombre d'années, c'est d'arriver à comprendre comment l'alimentation peut contribuer ou à développer des maladies métaboliques chroniques, mais peut aussi contribuer à faire de telle sorte que ça les prévient. Voilà. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Et donc, je vais vous faire voyager un peu dans un espace qui n'est pas l'espace que généralement les gens de la science-fiction, en tout cas de ce que j'en connais, vous font voyager. Je vais vous faire voyager dans un espace biologique. Et puis, un petit peu dans le temps, parce que je vais vous raconter comment est-ce que c'est l'évolution des idées et des concepts et des méthodes ont conduit à faire de telle sorte qu'on peut maintenant, aujourd'hui, parler de biologie prédictive. Alors, pour ceux qui ont fait un peu de biologie, rassurez-vous, je ne vous remettrai pas dans les affres de vos questions. Il n'y a pas de questionnaire et de QCM à la fin de cette présentation. Vous inquiétez pas, je suis sûre qu'il y en a un certain nombre parmi vous qui se disent « Ouh là 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 là, elle va nous emmener dans toutes ces réactions biologiques ». Oui, c'est compliqué, on va y aller, mais je ne rentrerai pas dans les détails et vous inquiétez pas, c'est entre guillemets facile, mais c'est compliqué. En fait, c'est compliqué, c'est facile et c'est compliqué, parce que le système, je dirais, notre système biologique, il est compliqué pour de multiples raisons et aujourd'hui, je vais en retenir essentiellement deux. Une, parce que c'est un système qui a des communications entre les cellules, entre les organes, du début de notre première cellule jusqu'à dernière cellule, il y a des systèmes de communication qui sont très compliqués. Et même encore aujourd'hui, on ne les comprend pas très bien. Et puis, en fait, notre système, il est extrêmement puissant. C'est qu'en fait, quand on le challenge, quand on essaye de le déstabiliser, il a un pouvoir incroyable d'essayer quasiment le plus rapidement possible de retourner à son état initial et donc de retourner à son état d'équilibre qu'on appelle en biologie l'homéostase. Et donc moi, c'est un petit peu ces deux éléments que je vais essayer de considérer dans cette présentation aujourd'hui. Et alors en fait, cette question-là, vous êtes tous aujourd'hui capables de répondre. Est-ce qu'il y a des liens entre notre santé et l'alimentation, entre nos comportements alimentaires et notre santé? Eh bien, vous allez me dire oui, puis on va aller un petit peu plus loin dans ces questionnements-là. Alors, quand on parle de maladies associées à l'alimentation, de façon générale, on parle de maladies non transmissibles. Et dans toutes ces maladies non transmissibles, il y en a de très nombreuses. Vous avez les maladies cardiovasculaires, les maladies associées à tout ce qui est le système vasculaire, cérébral, cardiaque. Vous avez les cancers, les maladies respiratoires, chroniques, d'accord, différentes. Et puis, vous avez le diabète. Et puis, en plus, vous avez l'hypertension, la maladie d'Alzheimer, l'ostéoporose, etc. Et en fait, vous voyez que ces maladies non transmissibles, elles ont un poids de façon majeure dans notre société. Et on a vu qu'en gros, il y avait 4 facteurs de risque majeurs qui étaient modifiables et communs qui pouvaient contribuer à ces maladies-là. Bon, il y a notre alimentation, il y a la consommation d'alcool qui est indirectement associée à notre alimentation, la sédentarité, le tabagisme. Et puis, il y en a tout un certain nombre. D'accord ? Et en fait, le poids de ces maladies non transmissibles sur la société, eh bien, sur nos sociétés de façon globale, et ça touche le monde entier, eh bien, il est de plus en plus grand. D'accord ? Les maladies d'origine alimentaire représentent vraiment une charge très, très importante sur nos sociétés. Mais ça touche, on peut dire que ça touche les pays occidentaux, mais pas uniquement les pays occidentaux. Parce que même l'Inde, par exemple, qui n'est pas considérée comme un pays extrêmement développé, est touchée par un certain nombre de maladies non transmissibles. Et maintenant, en Afrique aussi, il y a certains pays qui sont touchés par ces maladies non transmissibles qui sont associées à l'alimentation. En France, on n'est absolument pas épargné, c'est clair. Et alors, on va parler de diabète et puis de diabète de type 2. Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est que le diabète. Il y a différents types de diabète. On parle de diabète de type 1 et diabète de type 2. Alors, le diabète de type 1, de façon générale, de façon très simplifiée, c'est une maladie génétique qui apparaît généralement dans les 10 premières années de la vie, qui est donc associée au fait que, pour une raison qu'on ne connaît encore pas complètement, l'organisme reconnaît les cellules qui sécrètent l'insuline dans notre pancréas comme des cellules qu'il faut tuer. Et donc, tout d'un coup, le pancréas s'arrête de sécréter l'insuline. Et l'insuline, c'est l'hormone qu'on sécrète lorsqu'on a mangé pour pouvoir faire telle sorte que, en particulier, les sucres soient utilisés dans nos différents organes. Donc, si vous avez plus d'insuline, les taux de sucre augmentent et on peut faire des comas. C'est une maladie qui est relativement grave. Elle apparaît, comme je disais, dans les premières années de la vie, dans les 10 premières années de la vie en général. Et c'est une maladie qui est chronique et qui se développe vraiment tout au cours de la vie. Et puis, vous avez le diabète de type 2, qui est une maladie qui est très, très différente. Autrefois, on appelait ça le diabète du vieux ou le diabète du gros. En gros, c'est un diabète qui apparaît quand on a une surcharge pondérale, on va en parler un petit peu plus tard, qui est associé au fait que notre système est un peu en surcharge, il y a plein de phénomènes différents, et est vraiment associé à l'hypertension, l'obésité. Et puis, c'est pas, une fois de plus, on passe pas de l'état de santé à l'état de malade en une fraction de seconde, on a une espèce de trajectoire pour pouvoir développer la pathologie. Et ce qu'on définit comme un état pré-diabète, c'est maintenant le syndrome métabolique. Et donc, quand on regarde les gens qui ont un syndrome métabolique, on le définit par 5 critères. Vous avez un syndrome métabolique, faites attention, dans quelques années, vous allez développer le diabète de type 2. D'accord ? Donc, on a 5 critères. On a un critère qui est associé au mauvais cholestérol. Au bon cholestérol, en disant vous n'avez pas assez de bon cholestérol, aux triglycérides, c'est un peu l'hyperlipidémie, à l'hypertension, à l'embonpoint, votre taille au niveau de votre petit nombril, et puis votre niveau de sucre dans le sang. Et si vous avez 3 parmi ces 5 facteurs, on dit vous êtes à risque de diabète de type 2, faites attention. Et donc, si on veut regarder l'impact du prédiabète, qui est déjà quelque chose d'important en France, vous voyez qu'en fait, c'est quelque chose qui est vraiment non négligeable. Et ça, c'est des chiffres qui ont déjà quelques années. Mais en gros, plus de 20% de la population est en phase de prédiabète. Et ça touche les adultes, mais maintenant, ça ne touche pas que les adultes, ça touche les enfants. D'accord ? Donc, c'est quelque chose de très important. Et on sait que le diabète de type 2, un petit peu, c'est associé à notre alimentation. Alors, pendant très longtemps, quand on a regardé, quand on a étudié les effets de l'alimentation, les relations entre l'alimentation et notre santé, on a regardé les choses de façon un peu séquentielle. Alors, on peut dire que c'était un petit peu ennuyeux, mais on n'avait pas beaucoup, beaucoup d'outils pour regarder les choses de façon différente. Et donc, en gros, on disait que notre alimentation, elle est composée de lipides, de protéines, de glucides, de sucres. Et puis, on prenait les protéines, puis on regardait ce que ça faisait. On prenait les lipides, on regardait ce que ça faisait, puis on regardait ce que ça faisait sur un organe. Et puis, on disait, ça fait ça sur cet organe. Donc, c'est comme ça que notre alimentation fonctionne et a des effets sur notre santé. Donc, on avait une approche très séquentielle. Mais en fait, notre alimentation, elle est beaucoup plus compliquée, vraiment beaucoup plus compliquée. Parce que si vous regardez en gros, par jour, vous mangez environ 1,5 kg de nourriture. Vous buvez en gros 2 litres de boisson par jour, je dis de boisson, donc vous pouvez boire de l'eau, oui, mais du café, du thé, et ça a des composantes qui rentrent dans notre alimentation. Vous avez environ 40 nutriments qui sont essentiels, qui sont connus, mais il y en a un grand nombre qui sont inconnus. On ne connaît pas encore les effets complets biologiques des composés de l'alimentation. Vous avez des bactéries dans notre système qui ont un rôle très, très important. Et puis, Joël qui est là, qui est un spécialiste du microbiote, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises. Et on a des relations compliquées entre l'alimentation et les microbiotes. Et puis, vous avez des relations compliquées qu'on ne comprend vraiment pas encore vraiment entre les organes. Et puis, nos organes, ils ne sont pas composés uniquement d'un type de cellule. Ils sont composés de plusieurs types de cellules. Et tous ces types de cellules-là, il faut qu'elles se parlent entre elles. Donc, ce n'est quand même pas si simple que ça à pouvoir comprendre. Et tout ça, c'est contrôlé par des milliers de gènes, et donc qui sont liés à la production de protéines, qui sont liés à la production de petites molécules qu'on appelle les métabolites, et dans lesquelles je vais parler beaucoup plus tard au cours de cette présentation. Et puis en plus, quand on veut comprendre notre système biologique, alors vous voyez ici, là je vous ai dit, l'alimentation elle a des effets sur tout ça, mais en plus de cette complexité-là, je n'ai pas mis des flèches, mais il y a des flèches entre les protéines, les métabolites, entre les gènes, les métabolites, entre les gènes et les protéines. Donc tout ça, c'est très compliqué. D'arriver à vraiment bien comprendre tout ça, comment ça fonctionne, et dire, l'alimentation, elle a l'effet sur la santé, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous voyez, on parle déjà de choses d'une complexité qui n'est pas négligeable. Et puis, notre système biologique, physiologique, il n'est pas toujours dans le même état. Quand on est à jeun, quand vous êtes ici tous en train de me regarder, d'écouter, vous avez essentiellement votre cerveau, vos systèmes auditifs, vos yeux qui fonctionnent, le reste ne fonctionne pas. Si vous descendez les escaliers, vos muscles vont fonctionner et tout ça fait telle sorte qu'on n'est pas toujours dans les mêmes états biologiques et qu'en fait, il faut arriver à comprendre comment ça fonctionne. Et puis, les hommes et les femmes, on ne fonctionne pas pareil. Je vous en montrerai quelques exemples plus tard. Et puis, on a des hormones qui fonctionnent, qui ont des effets. Et donc, si on veut arriver à comprendre comment tout ça fonctionne, c'est très compliqué. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Donc là, notre système de santé, ce qu'on appelle le phénotype, c'est ce que nous sommes biologiquement à l'instant T. Si je vous prends un échantillon biologique, je veux savoir dans quel état vous êtes. On oscille dans un espace biologique qui est en santé en tant que tel. Comme je vous disais, à l'équilibre, à l'homéostase. Et donc, on oscille, le matin on se lève, on est à jeun, nos muscles vont fonctionner, et puis on va prendre le petit déjeuner, notre corps, notre système digestif va absorber tous ces nutriments et faire de telle sorte que, on va osciller au cours du temps pour pouvoir remplir toutes les demandes énergétiques, biologiques dont on a besoin. Et puis, ces facteurs-là, ça dépend de facteurs intrinsèques. C'est nos gènes, c'est notre sexe, mais ça dépend aussi de facteurs extrinsèques qui sont notre microbiote, notre activité physique, notre niveau de vie, notre style de vie, etc. Donc ça, c'est des facteurs intrinsèques et extrinsèques qui jouent sur cette dynamique-là. Alors, dans certaines conditions, on sort de l'état de santé. C'est ce qui se passe quand tout d'un coup, il y a une petite maladie, une petite grippe qui arrive, on ne parlera pas de la Covid. On sort de notre espace de santé temporairement et puis notre système va retourner à l'équilibre de façon plus ou moins facile. Et puis, il y a des conditions, des fois, où le système évolue de façon encore plus loin de notre système d'équilibre. Et là, on va développer une maladie pour de bon, une maladie chronique. Et en fait, de façon historique, pendant très longtemps, on a cherché à arriver à mieux comprendre le développement de ces pathologies et à essayer d'avoir des marqueurs de ces pathologies. Donc, il y a beaucoup de maladies pour lesquelles on a des marqueurs. Pour le diabète de type 2, parce que c'est quelque chose que je connais bien puis dont on va reparler, par exemple, on va dire votre glycémie à jeun, elle est à tel niveau, on a tel marqueur, vous êtes malade et c'est considéré comme un marqueur de la pathologie. Vous avez de l'hypertension, c'est un phénomène qui est entre guillemets irréversible et on va être obligé d'utiliser de la médication pour faire de telle sorte que on dupe un peu le système en lui disant écoute, on donne des médicaments pour faire comme si, par exemple, ta tension était normale. Donc, on a des conséquences biologiques qui sont irréversibles, mais on essaye de lui faire croire qu'en fait, il est un petit peu dans le système d'homéostase et pour faire de telle sorte qu'il fonctionne. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des marqueurs qui sont ici, là, qui sont dans cette phase où les choses commencent à bouger. Parce qu'en fait, quand on arrive au développement de la pathologie, finalement, c'est déjà un petit peu trop tard. Et ce qui nous intéresse, c'est de savoir si par hasard, on ne serait pas capable d'identifier des marqueurs qui sont signes de ces changements métaboliques précoces qui peuvent être subtils et qui peuvent nous indiquer que finalement, on va développer la pathologie. Et si on sait qu'on va développer la pathologie, potentiellement, on peut avoir des approches plus préventives et avoir potentiellement des conséquences sur notre organisme qui sont moins graves parce que on n'est pas encore dans la phase où les changements métaboliques sont vraiment irréversibles. Et donc, quand on essaye de savoir pourquoi et comment ça marche, en fait, on voit la complexité de notre système en se disant finalement, comment est-ce que l'alimentation affecte la régulation métabolique de notre système, de chaque individu? Alors en fait, on a différents comportements alimentaires. Vous savez que si finalement vous mangez ces différents types de diètes, si on prend des échantillons de sang et d'urine, on peut essayer d'arriver à mesurer plein de choses, plein de petites molécules qu'on appelle les métabolites. Et puis on essaye d'arriver à comprendre qu'est-ce que ces différents régimes alimentaires font sur notre organisme. D'accord ? Et donc, on peut arriver potentiellement à mieux comprendre comment l'alimentation peut avoir des effets sur notre santé. Et puis, si on a cette approche-là, on peut aussi dire on donne le même régime alimentaire à plusieurs personnes, exactement le même régime alimentaire. On fait des mesures dans le sang et les urines. On mesure plein de choses. Et on s'aperçoit que on ne répond pas tous de la même façon. Et donc, on peut ici arriver à comprendre quelles sont les différences entre différentes personnes et qu'est-ce qui fait que ces gens sont différents. Alors, notre système, il est complexe biologiquement parlant. Et en fait, il est complexe biologiquement parlant parce que nous, on est complexe, mais en fait, on a quelque chose qui joue dans notre organisme de façon non négligeable. En fait, il y a un microbiote dont on parle très souvent, qui est le microbiote intestinal, qui est quelque chose de très, très important. Mais en fait, finalement, on s'aperçoit qu'on a des microbiotes. On a un microbiote sur la peau, on a un microbiote pulmonaire, on a un microbiote donc intestinal, et même on s'aperçoit maintenant qu'il y a un microbiote très, très important chez les femmes, qui est le microbiote vaginal. Et quand on prend toutes ces molécules, ces organismes dans notre organisme, finalement, on s'aperçoit qu'on a énormément de ces organismes-là dans notre corps, qu'on a beaucoup plus de cellules qui ne nous appartiennent pas que de cellules qui nous appartiennent. Et en fait, il y a une symbiose qui est là, qui est très, très importante. Et si on supprime ces bactéries qui sont là de notre organisme ne fonctionne pas aussi bien. D'accord ? Et il faut arriver à comprendre comment ça fonctionne. Et c'est tout un champ de recherche très, très important. Et Joël Doré, qui est ici dans la salle, travaille énormément sur toutes ces choses-là. Et en fait, si vous regardez le poids total de tous ces microbiotes-là, en fait, ça représente le poids de notre cerveau. Donc, c'est non négligeable. Et donc, le rôle de ces molécules, de ces organismes-là sur notre santé sont très, très importants à comprendre. Et donc, en fait, simplement pour l'exemple, ça a été montré que le microbiote au niveau du système digestif a des fonctions multiples et vraiment très, très, très importantes. Et donc, en fait, on a vu que le microbiote des gens sains ou des gens obèses est très différent. Et qu'en fait, ça touche beaucoup plus de choses que simplement l'obésité. Ça a été montré que le microbiote des gens qui sont déprimés est différent aussi. Et on a pris le microbiote intestinal de certaines personnes qui sont déprimées, voire même d'autistes. On les a mis chez des rats et on s'est aperçu que les rats se mettaient à développer des signes de dépression, d'inflammation, etc. Donc vous voyez que cette interaction entre ce qui nous appartient, notre organisme et ces bactéries qui se font partie de nous, c'est quand même très très important et il faut pouvoir arriver à prendre en considération tout ça pour pouvoir arriver à mieux comprendre comment l'alimentation a un rôle dans notre vie. Alors si on peut faire une image un petit peu simpliste, alors je ne suis pas une spécialiste de la science-fiction, alors j'ai pris juste une petite peinture. Si on imagine que notre état de santé, c'est cette peinture-là, et que vous allez, on fait une image, et que vous allez chez le médecin, tous les uns les autres, demain, aller voir votre médecin, en disant, écoutez, j'aimerais savoir dans quel état de santé je suis. Alors il va vous dire, d'accord, ok, on va faire un check-up. Donc vous allez aller au laboratoire et puis vous allez venir à jeun et puis on va vous prendre un peu de sang et puis potentiellement on va prendre un petit peu d'urine et puis on va mesurer un certain nombre de molécules. Et puis on mesure quelques molécules. Si on veut aller beaucoup plus loin parce qu'on soupçonne des choses plus ou moins graves, on peut aller même dire on va faire des analyses génétiques. Et ça nous donne un petit peu l'idée de ce que nous sommes. Mais en fait, ce qu'on voudrait, finalement, c'est d'avoir des choses un peu plus compréhensives et avoir un peu plus de points dans la peinture. Et donc, en fait, alors ça, c'est à l'époque où on faisait de la peinture impressionniste. Maintenant, on va aller au monde digital. Et en gros, en fait, ce qu'on veut, c'est augmenter la résolution de notre image. Et donc, avoir un peu plus de pixels dans notre image pour pouvoir arriver à définir ce que nous sommes et arriver à mieux comprendre comment notre alimentation et comment le développement des pathologies peuvent se faire. Alors, en gros, il faut faire des mesures plus nombreuses, comme nos appareils photo, nos téléphones. Et donc, en gros, pour faire des mesures plus nombreuses, depuis un certain nombre d'années, il y a des techniques qui en sont apparues et qui sont des techniques dont vous avez probablement entendu parler déjà, des approches omiques. Alors, depuis très longtemps, on parle de la génomique, qui est l'ensemble du séquençage de tout notre génome, tous nos gènes. Et depuis un certain nombre d'années, on a des approches qui mesurent la quantité des protéines que l'on a dans nos milieux biologiques ou des petites molécules dont je vous parlais tout à l'heure qui sont les métabolites. Et donc, on parle de protéomique et de métabolomique. Alors, la métabolomique, c'est la dernière née des approches omiques. Elle est née dans les années 2000. Et en fait, la combinaison de ces approches omiques, ça nous permet d'avoir une signature parce que ça nous permet d'avoir plus de molécules pour pouvoir arriver à définir ce que nous sommes. Parce qu'on n'est pas défini juste avec notre niveau de glycémie, notre niveau de glucose, de triglycérides ou de cholestérol dans notre sang. Et on va agréger des molécules à ce que nous sommes, donc pour mieux définir ce que nous sommes et mieux définir les maladies. Alors en fait, ça date des années... La métabolomique est née dans les années 2000, mais en fait, ça date quand même de un peu plus avant qu'on a commencé à dire finalement, il faut qu'on arrive à définir les choses de façon un peu plus précise. Et dans les années 90, il y a un Américain qui s'est dit, on va essayer de trouver un moyen pour profiler les métabolites qu'il y a dans le sang au moment de la naissance. Et alors, tous les parents ici qui ont eu leurs enfants, qui ont assisté à la naissance de leurs enfants ont probablement vu que très peu de temps après la naissance, on va prendre un petit échantillon dans le talon du bébé et les parents disent « Oh, c'est catastrophique !» On prend un petit échantillon dans le talon de sang, on va le mettre sur un petit buvard, on va aller sécher ça et on va aller chercher des marqueurs pour pouvoir aller identifier certaines molécules et en fait ça nous permet maintenant à la naissance de faire un diagnostic de 30 pathologies héréditaires et faire de telle sorte que finalement on sait dès la naissance si un bébé peut avoir une maladie héréditaire et on peut avoir une idée vraiment plus rapide de savoir si finalement on va être obligé de le traiter de façon précoce, oui ou non. Et donc depuis 2003, maintenant, c'est un screening qui est, je pense, systématique dans nos pays occidentalisés. Hein. Je ne pense pas que ce soit le vrai absolument partout dans le monde. Donc en gros, ben, vous avez, c'est un peu un profilage métabolique qui est installé depuis maintenant un certain nombre d'années. Et alors, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que l'approche métabolomique, parce que c'est un outil que j'utilise depuis maintenant un peu plus de 15 ans et qui est très puissant. Alors, comme je vous disais, c'est M. Nicholson qui a défini cette approche-là. Alors, je vous ai mis la définition scientifique, mais en gros, c'est une mesure une mesure quantitative qui est plus ou moins vraie de la réponse métabolique. Alors, on prend une cellule, on prend un tissu, on prend un fluide biologique et puis on regarde qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, en gros, il y a deux types d'approches métabolomiques. Il y a des approches où on regarde toutes les molécules qu'on est capable de voir, donc on en voit des milliers, ou une approche qui est beaucoup plus ciblée. Et donc là, on est beaucoup plus précis et on va en regarder des dizaines, des centaines. Voilà. Et donc, en fait, ben, on a un profil métabolique global ou un profil ciblé. Ça va un petit peu trop vite. Et donc, en gros, ben, ce profilage métabolique qui nous permet de pouvoir potentiellement, quand on va mesurer toutes les molécules qu'on a dans notre sang ou dans nos urines, ça peut nous permettre de découvrir des molécules, puis potentiellement de voir si elles sont différentes dans certains cas, si entre les gens qui sont sains et les gens qui sont malades, ben, il y a une molécule qui apparaît ou qui disparaît. Et donc, on va pouvoir avoir un processus complexe et très précis pour pouvoir arriver à développer, découvrir de nouveaux biomarqueurs et puis les valider, et on va en reparler plus tard. Et donc, en fait, de façon générale, la métabolomique, elle a été décrite par M. Nicholson en 2002, et il y a des gens qui ont commencé à se dire, ben, est-ce qu'on est capable d'analyser les molécules et de savoir si est-ce qu'on regarde les choses de façon claire. Et je vous ai mis ce papier-là parce que c'est un des premiers papiers où, en gros, ces gens-là, ils voulaient regarder si on était capable, par la méthode classique de dosage des marqueurs du cancer du foie, si on était capable de différencier les gens qui avaient le cancer du foie de ceux qui avaient une cirrhose hépatique. Et donc, ils ont dit, ben, on va mesurer les 15 molécules qu'on s'est mesurées depuis tout le temps, et est-ce qu'on est capable de séparer les deux. Et vous voyez qu'en fait, ici, on n'est absolument pas capable de séparer les deux. Et puis, il s'est dit, mais finalement, si on a une approche où on regarde toutes les molécules, on va prendre, ici, ils en ont pris 113 molécules, dont la plupart, ils ne savaient pas ce que c'était, mais ils se sont dit, on va prendre la surface du pic et puis on va regarder si ça nous permet de définir, de mieux différencier les gens. Et en fait, en prenant même les molécules qu'ils ne connaissaient pas, ils ont pris l'intégration de toutes ces molécules-là et ils ont été capables non seulement de différencier ceux qui avaient le cancer du foie de ceux avec la cirrhose hépatique, mais ils se sont dit « Ah, mais non, il y a un autre groupe ». Et quand ils ont regardé un petit peu plus précisément, eh bien, ils ont vu que c'était des gens qui avaient une hépatite. Donc, vous voyez qu'en fait, ben, quand on mesure beaucoup de choses, même si potentiellement on ne sait pas ce qu'on mesure, on est capable potentiellement d'avoir un meilleur potentiel discriminant et potentiellement arriver à mieux comprendre ce qui se passe. Alors, ben, du coup, depuis les années 2000, ben, il y a plein de choses qui ont été faites en métabolomique et je vous ai mis juste quelques exemples de ce qui a été fait. Alors, on va voyager un petit peu dans le temps et voir ce qui se passe. Alors, en gros, quand ces approches-là sont arrivées, ben, on a commencé à regarder les gens qui sont sains, des gens qui sont très malades, parce qu'en fait, c'est plus facile. Vous comprenez que quand on est sain, malade, c'est comme quand on est noir ou blanc, quand on est... C'est 1-0, et donc la discrimination est plus faible, est plus grande, pardon. Et donc, en fait, on a commencé par regarder des choses où c'est relativement, les effets sont relativement plus faciles à voir. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été développées au départ dans tout ce qui était cancer. Et donc, en fait, ben, en gros, les premières études ont été faites sur des cinquantaines de cas. En fait, eh ben, ils ont pris des gens qui étaient cancéreux avec différents types de cancers. Et puis, ben, on va dire qu'en gros, ils ont identifié un marqueur, puis ils se sont dit « Ah, c'est génial, on a trouvé le marqueur urinaire du cancer de la prostate. » Et grâce à ça, on est capable de prédire le cancer de la prostate. Mais finalement, un an plus tard, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, on a pris un peu plus de gens, on a regardé la même chose, et puis finalement, on s'est dit « Ah ben non, finalement, ben, ça ne marche pas. Ce n'est pas aussi facile que ça. » Et donc ça, ça soulève le fait que ben, quand on a commencé à vouloir analyser toutes ces molécules-là, ben, on s'est aperçu que oui, c'est bien de mesurer beaucoup de molécules, mais il faut le faire sur un nombre de sujets relativement conséquent, suffisant pour pouvoir arriver à faire de telle sorte qu'on arrive à identifier là où les bonnes molécules. Et donc, en fait, ben, on a mis en évidence que toutes ces études qui ont été faites sur un petit nombre d'échantillons qui ont été sélectionnés, si ben, on ne confirme pas ça dans des cohortes de façon précise, et ben, finalement, c'est pas tout à fait robuste. Et puis, ben, il faut trouver la bonne cohorte cliniquement pertinente, il faut trouver ben, des échantillons biologiques qui sont de qualité, et puis ben, il faut arriver à avoir un petit peu de rationnel simplement dans les méthodes et faire de telle sorte qu'on puisse comparer des pommes avec des pommes et pas des pommes avec des poires, parce que finalement, si vous n'utilisez pas obligatoirement la même méthodologie, potentiellement que vous allez avoir, si vous n'êtes pas vraiment sûr de ce que vous mesurez, des résultats différents. Donc ça suggère, ça nous a ouvert la porte à beaucoup de choses. Alors j'ai pris un autre exemple ici qui a été fait dans un cadre complètement différent où alors là, ben, on s'est dit, ben, c'est important, oui, de valider. Et donc là, ils ont essayé d'identifier des biomarqueurs de la pré-éclampsie. C'est quelque chose qui apparaît chez les femmes qui vont juste avant qu'elles accouchent. C'est quelque chose qui est très grave, parce que si elle développe la pré-éclampsie, ça a un risque majeur de mortalité pour la mère et pour l'enfant. D'accord ? Donc c'est quelque chose, c'est une complication en fin de grossesse qui peut avoir des conséquences très graves. Et donc en fait, ils ont analysé des échantillons de femmes. Et en fait, ils ont... Alors une fois de plus, vous voyez que c'est une étude qui s'est faite sur des gens qui sont 120 individus. Et puis, mais ils ont validé chez des gens dans une autre cohorte. Et puis, ben, en gros, ils ont analysé toutes les molécules qu'on pouvait analyser. Et puis, ben, ils ont trouvé 14 métabolites. D'accord ? Donc, on commence à se dire, ah ben, on va avoir plusieurs molécules pour pouvoir arriver à nous définir. Et, c'est clair que finalement, si on veut arriver à faire telle sorte qu'on caractérise mieux notre système, eh ben, il nous faut plusieurs molécules plutôt qu'une seule molécule pour arriver à mieux définir le système. Et puis, ben, en fait, dans les années 2000, il y a un des premiers papiers qui est sorti sur la prédiction dans une cohorte américaine de Framingham. Et donc, en fait, eux, ils ont regardé des gens. Alors, ils ont eu une approche. Alors, c'était des gens qui avaient été recrutés, qui étaient tous diabétiques, non diabétiques de type 2 à l'inclusion. Et puis, 12 ans plus tard, il y avait des gens qui avaient développé le diabète de type 2 et puis des gens qui étaient restés normaux. Et donc, en fait, ils ont pris des gens à ce moment-là. Ils ont pris des gens qui avaient développé le diabète de type 2, des gens qui ne l'avaient pas développé. Puis, 12 ans plus tôt, ils ont pris des échantillons biologiques. Puis, ils se sont dit, est-ce qu'on est capable de savoir si dans le sang, quand on les mesure 12 ans avant, est-ce qu'on va être capable de prédire ceux qui vont développer le diabète de type 2 dans 12 ans ? Et donc, en fait, ils ont mesuré une centaine de molécules, en gros, une approche ciblée. Et puis, en gros, ce qu'ils ont fait, alors, une fois de plus, je suis désolée, il y a encore quelques diapositives qui ont un peu d'anglais, hein, j'ai essayé de les traduire, mais ce qui est en anglais, ce n'est pas très, très important, ce qui est juste le message que je vais vous faire passer. En gros, quand on regarde le modèle de prédiction en tant que tel, classique, clinique, on prend l'âge, on prend l'indice de masse corporelle, qui est en fait votre poids divisé par votre taille au carré, qu'on appelle l'IMC, et puis la glycémie. Et donc, en fait, cliniquement parlant, quand ils veulent savoir si les gens vont développer le diabète, ils prennent ce marqueur-là. Et en gros, vous voyez que le pouvoir prédictif de ces trois marqueurs-là est très faible. Si à ce système-là, ils rajoutent la concentration de juste trois acides aminés qu'ils avaient mesurés dans le sang de ces gens 12 ans auparavant, vous voyez que le pouvoir prédictif du modèle est 10 fois meilleur. enfin même 20 fois meilleur, mais ce n'est pas exactement 20 fois. En tout cas, peu importe, il est beaucoup plus augmenté. On est capable, en agrégeant simplement la valeur de 3 acides aminés, de beaucoup mieux prédire. Et quand je dis prédire, c'est-à-dire qu'on analyse l'échantillon biologique et on lui dit, bah, toi, tu vas appartenir à ce groupe-là ou ce groupe-là. Et on est capable de beaucoup mieux prédire le devenir de ces gens-là. Et si on rajoute simplement 2 autres acides aminés, bah, finalement, vous voyez que les chiffres, ils ne sont pas vraiment très, très, très différents. Ça n'améliore pas vraiment beaucoup le pouvoir prédictif du modèle. Alors nous, on a fait une étude, suite à cette étude-là, nous, on a fait une étude dans la cohorte Gazelle, qui est une cohorte française, de gens qui ont été recrutés, qui travaillaient à EDF-GDF. Et en fait, on s'est dit, ben, est-ce qu'on est capable de faire une étude un petit peu similaire à ça ? Mais comme je vous disais, on n'est pas que de la biologie. On est, oui, des choses biologiques dans notre sang, mais est-ce que si on agrège à ces valeurs biologiques des paramètres qui sont associés à notre alimentation et des paramètres qui sont associés à notre niveau de vie, notre socio-économie, est-ce qu'on a un modèle du coup un peu multidimensionnel ? Est-ce qu'on est capable d'améliorer la valeur prédictive de ces modèles ? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donc travaillé dans cette cohorte Gazelle. Donc, c'est en gros 20 000 participants. Évidemment, vous ne serez pas surpris de voir qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui travaillent chez EDF-GDF. Et donc, en fait, cette cohorte, c'était vraiment une cohorte de gens qui travaillaient. Enfin, les principaux investigateurs des gens qui ont construit cette cohorte, ils travaillaient vraiment sur l'évolution de la santé au cours de la vie. Et en fait, ils voulaient vraiment regarder, ils ont fait beaucoup, beaucoup d'études sur les déterminants sociaux de la santé, sur les conditions de travail, sur l'effet de la retraite sur notre santé, etc. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de données associées à ça. Et donc, régulièrement, ils avaient quelques données alimentaires. Et donc, nous, on a récupéré, on a fait un peu le même design que ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on est allé chercher des gens qui avaient le diabète de type 2 ou pas le diabète de type 2 à un certain temps. Et 5 ans auparavant, on est allé chercher les échantillons biologiques de ces gens-là. Et on a essayé de savoir si, en mesurant par métabolomique, donc ouverte, toutes les molécules que l'on est capable de mesurer potentiellement, si on était capable de les distinguer. Et donc, comme je vous disais, on a eu une approche multidisciplinaire parce qu'au-delà de la biologie, on a essayé d'agréger des données qui venaient de questionnaires alimentaires et données cliniques et puis des données socio-économiques. Alors, en gros, comme je vous disais, on a eu une approche un peu similaire à ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'en fait, on a une approche de découverte dans une partie de la cohorte. On a analysé des données biologiques, cliniques et puis alimentaires. On a essayé de faire un tri dans tout ça pour pouvoir arriver à faire de telle sorte qu'on identifie les molécules qui sont discriminantes entre les gens qui sont non diabétiques et diabétiques 5 ans plus tôt. Et puis, on a essayé de les répliquer chez des gens 5 ans auparavant, savoir si répliquer dans une cohorte de validation des gens qui étaient un petit peu plus jeunes, ils n'avaient pas exactement le même âge. Voilà, donc on a répliqué ces données-là, et puis on a essayé de regarder si on était capable de classifier correctement les gens. Et donc, en fait, alors, une fois de plus, vous ignorez ce tableau-là. En gros, ce qu'on a montré, c'est qu'en gros, on était capable de discriminer vraiment les gens de façon relativement claire quand on prend pas simplement une molécule, deux molécules. Et en gros, on avait 4 à 5 molécules qui pouvaient arriver à discriminer les gens. Et on voyait vraiment qu'on est capable, on ne passe pas de l'état de santé à l'état de malade en un rien de temps. Il y a des choses subtiles qu'on est capable quand on les regarde de façon ouverte, on est capable d'identifier des choses subtiles qui commencent à se détériorer 5 ans auparavant. Et puis, on a agrégé ces données-là, et en fait, ben alors, vous ne voyez pas très bien, mais on a essayé d'agréger toutes ces données de molécules, de petites molécules de métabolites qu'on a analysées dans le sang, et on a essayé de les corréler, de les associer avec des données de phénotypique, c'est-à-dire on a regardé l'indice de masse corporelle, on a regardé la consommation de pain, la consommation d'alcool, etc. etc. On a pris toute une série de paramètres et on les a associés. Et vous voyez qu'en fait, entre la biologie et certains paramètres, comme l'indice de masse corporelle ou la consommation de vin, il y a des molécules dans le sang qui sont corrélées, qui sont associées. Alors, c'est des relations d'association, hein, on est bien d'accord, ce n'est pas du relation causatif, c'est des relations d'association qui peuvent être associées positivement ou négativement avec ces données-là. Et donc, ça nous donne une idée relativement plus complète, plus multidimensionnelle de ce que sont ces gens-là. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que dans nos modèles de prédiction, eh bien, il y a des gens qu'on n'est jamais capable de classer correctement. C'est-à-dire qu'on n'est jamais, dans tous nos modèles, si on les met, eh bien, on dit, ah ben eux, ils sont sains, ah, eux, ils sont malades, et en fait, en réalité, on ne les classe jamais correctement. Et donc ça nous suggère qu'en fait, ben, on les classe soit sains, soit malades, mais finalement, ils sont entre les deux. Et donc finalement, ça ouvre la porte au fait qu'on a ce qu'on appelle des sous-phénotypes, puisque notre phénotype, c'est l'état dans lequel on est. Eh bien, on ne classe pas aussi bien les gens que ça. Et on met dans des boîtes des gens qui ne sont pas tout à fait exactement bien classés. Et ça ouvre la porte à le fait de dire, ben, finalement, peut-être qu'on ne définit pas assez bien les maladies, et on ne définit pas assez bien ce qu'on est correctement. Et ça ouvre la porte à bien d'autres choses dont je vous parlerai un tout petit peu plus tard. Alors un autre exemple dont je voudrais vous parler, c'est le processus de l'âge. Alors on a participé à un projet européen il y a quelques années. Alors là, le vieillissement, c'est quelque chose de complexe, hein, et qui touche éléments, les petites organelles, les sous-éléments de nos cellules, nos organes, nos individus. En tant qu'individus, c'est vraiment quelque chose de multidimensionnel, une fois de plus. Et donc, c'est quelque chose de très complexe. Et en fait, depuis un certain nombre d'années, il y a un élément qui a été identifié, associé au vieillissement, qui s'appelle l'inflammation à bas bruit. C'est une inflammation un peu chronique, qui n'est pas très importante, mais qui peut avoir des effets non négligeables. Et donc, ce projet-là, il était vraiment centré sur ce processus de ce qu'on appelle « inflame aging », donc c'est l'inflammation associée au vieillissement. Et on essaie d'arriver à comprendre un petit peu à quoi ça sert. Et vous savez que dans le vieillissement, y a des gens qui vieillissent bien, des gens qui vieillissent mal. Et qu'en fait, parmi ces gens qui vieillissent bien et mal, il y a des gens dans le monde entier qui ont essayé d'analyser ça. Et il y a des populations qui vieillissent beaucoup mieux que d'autres. Alors, il y a probablement des facteurs génétiques et épigénétiques majeurs, mais il y a un des éléments qu'on soupçonne, qui est la diète. Et vous avez probablement entendu parler de la diète méditerranéenne qui peut avoir des effets bénéfiques absolument extraordinaires. Et donc, il y a toute une étude sur des centenaires en Sicile, parce qu'en fait, ils vieillissent très très bien et on se demande quelle est la part de l'alimentation dans ce processus de vieillissement. Et donc, en fait, ce projet-là, il s'était de savoir si la diète méditerranéenne pouvait avoir un rôle sur la qualité du vieillissement. Et alors, dans le vieillissement, il y a un syndrome qu'on appelle la fragilité, dont vous avez probablement entendu parler. En gros, c'est une fois de plus un peu comme le syndrome métabolique, c'est quelque chose qui est multidimensionnel et il y a toute une série de facteurs qui sont impliqués. Ça va de la nutrition jusqu'aux relations qu'on a au niveau social. Et puis, il y a 5 critères qu'on utilise pour pouvoir savoir si vous êtes fragile ou pas fragile, qui est associé à notre niveau d'activité physique, la perte de poids potentielle de façon non voulue, la vitesse de marche. En tout cas, vous avez 5 critères et c'est comme le syndrome métabolique. Si vous en avez 3 parmi ceux-là, votre médecin, il va dire « Ah, vous êtes fragile ». Et en fait, ce qu'on sait, et ça, c'est bien documenté, c'est qu'en fait, à partir du moment où la personne est fragile, la fragilité est vraiment associée à une augmentation de la mortalité et de la morbidité. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où les gens sont fragiles, on s'aperçoit qu'ils développent plus de maladies annexes et qu'en fait, la fragilité peut vraiment être un processus vraiment qui accélère le décès. Et donc, ce projet-là, alors une fois de plus, étaient s'intéressaient à l'exploration des phases initiales du développement de la fragilité. Donc voilà. Et en fait, on voulait savoir si il y avait des processus potentiellement encore réversibles. Alors là, je vous ai mis le score de la performance physique en tant que telle. On essaye de regarder si la personne a un équilibre correct, si elle est capable de marcher correctement. Et puis, on la fait lever de sa chaise une dizaine de fois pour savoir si elle est capable d'avoir des muscles et d'une dynamique au niveau de ses muscles correctement. Donc, une fois de plus, ben voilà, on voulait regarder qu'est-ce qui se passait quand on était en amont de la pathologie, quand on était pré-fragile. Et donc, dans ce projet-là, il y a 1250 personnes qui étaient âgées entre 50 et 79 ans, qui étaient identifiées comme non fragiles ou pré-fragiles dans 5 pays européens. Les Italiens, les Polonais, les Français, les Néerlandais et les Anglais. Alors, vous voyez, j'ai mis un gradient. On va du sud au nord. Et donc, on a identifier ces 1250 personnes, soit fragiles, soit pré-fragiles, non fragiles, pardon, soit pré-fragiles. Et puis pendant un an, on leur a dit, écoutez, vous allez accepter de manger ou non une diète enrichie type méditerranéenne. Alors on a fait un système de tirage au sort et il y a des gens qui avaient la diète méditerranéenne et d'autres qui n'avaient pas la diète méditerranéenne. Je vous ai mis les détails mais ce n'est pas très, très important. Et donc, en fait, ce qu'on voulait savoir, c'est est-ce qu'on était capable de vraiment bien identifier les gens qui étaient pré-fragiles et au cours du temps, de un an, est-ce qu'on était capable de voir qu'est-ce qui allait se passer plus tard? Est-ce que la diète méditerranéenne avait un effet? Alors, nous, notre implication dans ce projet-là, en fait, avec l'approche métabolomique, on voulait savoir si on était capable de mieux caractériser la préfragilité. Est-ce qu'on était capable de mieux distinguer les sujets préfragiles et non fragiles avec la métabolomique et identifier des marqueurs spécifiques et éventuellement étudier la stabilité de la préfragilité et voir potentiellement l'évolution du statut au cours du temps. Alors, je peux vous dire que dans ce projet européen, qui était un gros projet européen avec plusieurs millions d'euros, on a mesuré tout ce qui est possible de mesurer en omique. Donc, la protéomique, la génomique, l'épigénétique, le microbiote. Et toutes ces études-là, elles n'ont pas été capables de différencier au départ les gens pré-fragiles des gens fragiles. On était tous un petit peu surpris. Ce qu'ils étaient capables de voir, c'est qu'en gros, les Anglais, les Italiens, les Polonais, les Français, tous les faits pays étaient là tout le temps. Okay. Potentiellement, les faits homme-femme étaient là tout le temps. Mais c'était une plaisanterie à l'intérieur du consortium. On disait, si on va à Bruxelles et qu'on a demandé 5 millions d'euros et qu'on dit qu'on est capable de différencier les hommes et les femmes à 65 ans, peut-être que l'Europe ne va pas être tout à fait contente et de rapport coût-bénéfice en termes de rapport de connaissances, ça ne va peut-être pas être aussi efficace. Et alors, à notre grande surprise, quand nous, on a analysé les échantillons d'Italiens et de Polonais, alors tout au début, on a pris des échantillons, on nous a donné des échantillons au hasard d'Italiens, de Polonais, et puis finalement, on a trouvé des choses tellement intéressantes qu'on nous a dit, bon, vous allez réanalyser plus de choses. Donc on a analysé des gens, tous les gens qui étaient Italiens et Polonais, dont le statut de fragilité changeait au cours du temps. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient soit non frêles, soit pré-frêles au départ, et on a regardé tous les gens qui étaient stables, mais aussi tous les gens qui se dégradaient ou tous les gens qui s'amélioraient. Alors, au cours du temps, comme on a eu un tirage au hasard, on a eu quelqu'un qui est devenu non frêle et donc on l'a éliminé. Et donc, en fait, je vous rentre pas dans les détails, mais ce qu'en fait on a vu, c'est qu'on est capable d'identifier des marqueurs vraiment spécifiques entre les non frêles et les pré-frêles, et on est les seuls à pouvoir le voir parce qu'en mesurant toutes les molécules qu'on a dans le sang, on combine l'information qui vient de tout, parce qu'en fait, on a les informations qui viennent du microbiote, on a les informations qui viennent de l'alimentation, les effets des gènes, etc. Et on est capable d'identifier les gens qui sont pré-frêles, des gens non frêles. On est capable vraiment de voir des choses qui sont subtiles. Et, à notre grande surprise, à l'âge de 65 et de 78 ans, je pense, on ne partage pas tant de couches que ça entre les hommes et les femmes. Vous allez être surpris, mais entre les hommes et les femmes, il y avait une molécule en commun. D'accord ? Et on peut vous dire, ah mais c'est des gens qui sont post-ménopausés, l'andropause, la ménopause est déjà faite, c'est comme ça, c'est beaucoup plus simple. Non, ce n'est pas si simple. Et quand on met tout le monde dans le même panier en disant les hommes et les femmes, on a des choses en commun, oui, d'accord, on a des choses en commun, mais même à 65, 70 ans, on n'a pas tant de choses en commun. Et puis, on s'est aperçu que finalement, parmi ces molécules-là, on avait l'impression qu'en fait, on avait des espèces de sous-groupes et qu'on avait l'impression que la pré-fragilité, il y avait ce qu'on appelle une espèce de sorte de pré-fragilité légère et une pré-fragilité plus avancée. Et donc, en fait, on a identifié des marqueurs qui sont spécifiques dépendant du sexe et puis des marqueurs qui sont capables de prédire l'évolution au cours du temps. C'est-à-dire qu'en fait, on voyait qu'on avait des molécules spécifiques chez les non-frêles qui nous disaient « Ah ben, dans un an, vous allez devenir pré-frêle. » Et vice-versa, chez les pré-frêles, des gens qui disent « Ah, ben, vous êtes un peu moins malade et donc finalement, dans un an, vous allez être non-frêle. » Donc, on est capable de voir des molécules qui sont vraiment spécifiques et qui nous permettent de prédire l'évolution de la maladie un an auparavant. Donc ça, une fois de plus, ça nous permet de dire, ah ben finalement, quand on regarde les choses de façon plus précise, eh ben, on peut peut-être avoir une approche potentiellement différente en termes de prise en charge. Alors finalement, oui, on a ces molécules-là. Et alors une fois de plus, si vous regardez un petit peu les N, là, de la quantité d'individus qu'on a regardés, c'est des petits échantillons. Hein. On parle de 100 personnes, on parle de 40-50 personnes, oui, ces molécules-là, on les identifie, c'est des potentiels biomarqueurs. Et pour pouvoir arriver à faire telle sorte qu'on les utilise comme marqueurs plus tard, il faut que ce soit validé. Et il y a un processus vraiment bien complexe et bien stratifié depuis un certain nombre d'années. Donc, on a une phase de découverte, une phase de qualification avant que ce soit validé et appliqué de façon plus clinique et plus large. Et en fait, ce qui est important aussi de comprendre, c'est quand on parle de biomarqueurs, oui, ça peut être une molécule, mais il faut qu'elle nous apporte de l'information. Il faut qu'elle veuille dire quelque chose. Et que finalement, ce n'est pas simplement une mesure, il faut qu'elle nous apporte de l'information biologique et qu'elle potentiellement puisse aider le clinicien à faire de telle sorte qu'elle puisse arriver à mieux traiter ou mieux aider le patient à évoluer au cours du temps. Et en fait, c'est juste cette diapositive qui est un petit peu complexe, mais gardez juste à l'idée que maintenant, finalement, on commence à se dire, oui, c'est bien d'utiliser des marqueurs, mais qu'est-ce que ça va pouvoir nous apporter et est-ce que ces molécules-là peuvent nous faire comprendre qu'est-ce qui se passe de façon plus précise dans l'organisme. Et donc, il y a des études qui se passent avec combinaison d'études chez les cohortes, dans des cohortes comme dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi des études animales pour pouvoir arriver à mieux comprendre et mieux décortiquer les processus. Et ce papier récemment de 2012 est vraiment un très très beau papier parce qu'en fait, ils ont fait une phase de découverte dans une cohorte, ils ont fait une phase de validation dans une autre cohorte, et puis ils ont pris des cellules de certaines personnes, puis ils sont allés décortiquer de façon plus précise. Alors, bien évidemment, on n'a pas tous les mécanismes, mais on commence à avoir des petites informations qui nous permettent de mieux comprendre les choses et faire de telle sorte que on ait un peu plus de connaissances dans certaines phases de développement de la maladie, et ce papier en particulier, c'est dans la phase de pré-diabète. Alors, vous allez me dire, mais est-ce que ça, c'est quelque chose de science-fiction ou est-ce que c'est de la réalité? Alors, je vais vous dire non, pas complètement, et oui. Parce qu'en fait, Nicholson, qui a décrit pour la première fois la métabolomique, il a des moyens financiers non négligeables. Il a acheté tout le centre de dépistage qui a été établi au moment des JO. Et puis, il a racheté tout le matériel, racheté les locaux. Et puis, il y a un superbe centre qui s'appelle le National Phenome Center à Londres. Et en fait, il utilise déjà ces approches-là. Alors, une fois de plus, c'est le pape, c'est le papa de la métabolomique. Et c'est quelque chose qui est unique dans le monde encore aujourd'hui. mais c'est pour vous montrer que ce n'est pas complètement de la science-fiction. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui arrive aux urgences dans ce centre-là, on prend un échantillon biologique, on va l'analyser par toutes ces approches un peu complexes de résonance magnétique nucléaire, de spectrométrie de masse, et puis on va identifier un certain nombre de profils et on va dire, ah ben celui-là, ok, on a certains caractères cliniques et une certaine signature pour dire, ben celui-là, il vient aux urgences parce qu'il a ça. Mais on va compléter l'information avec ces mesures-là et on va dire, ben celui-là, il faut qu'il aille en cardiologie, il faut qu'il aille, oui, il a un problème cardiaque, mais finalement, il faut qu'il aille en hépato. Finalement, il a un problème hépatique. Ou c'est l'inverse, il a un problème hépatique, mais finalement, il faut l'envoyer en cardio. Et puis, et donc, ce système d'orientation aux urgences est changé. Et puis, au niveau des salles d'opération, quand ils opèrent un cancer, eux, ils ont la salle d'opération, on ouvre, on prend un petit échantillon de tissu, on l'emmène juste dans la salle à côté, on fait des petites mesures, on analyse un profil, on n'analyse pas une molécule, on analyse un profil. Il y a un certain nombre de ces molécules-là, on ne sait pas ce que c'est, mais on sait que c'est spécifique de tel ou tel cancer. Le profil est là, on coupe. Le profil n'est pas là, ce n'est pas cancéreux. On ne coupe pas cet endroit-là. Vous comprenez que ça y est, on est en train d'évoluer et on est en train d'aller vers une approche beaucoup plus intégrative et beaucoup plus complexe. Alors, ça existe à Londres, mais j'imagine que dans quelques années, ça va se démocratiser pour de multiples raisons. Alors, tout ça, c'est bien, mais je vous ai parlé de choses, mais maintenant, on va avoir toute une question par rapport aux contraintes que ça, parce que finalement, on mesure plein de choses, on analyse des molécules, mais finalement, il faut arriver à faire de telle sorte qu'on les fasse parler et qu'on arrive à attirer de l'information, mais aussi de la connaissance à toutes ces choses-là. Et finalement, c'est pas si simple que ça. Il y a tout un certain nombre de verrous et de leviers, de défis qui sont devant nous. Et donc, en fait, oui, avoir ces approches intégratives, c'est bien, mais il y a toute une série de défis. Et puis, cette petite image nous montre vraiment que finalement, si on regarde simplement un tout petit bout de la lorgnette, on peut avoir une image tout à fait trompeuse et qu'il faut arriver à trouver un moyen pour pouvoir intégrer cette information-là. Et Poincaré nous disait ça déjà il y a très longtemps, qui disait qu'en fait, on fait de la science avec des faits, comme on fait une maison avec des pierres. Mais ce n'est pas l'accumulation des faits qui fait réellement la science, comme ça n'est pas le tas de pierres qui fait la maison. Et donc, il faut arriver à faire de telle sorte qu'on fasse parler ces données-là et arriver à faire qu'on extrait la connaissance. Et ça, ce n'est pas si simple que ça. Il y a un certain nombre de défis devant nous. Et donc, les défis, ils sont multiples. Ils sont méthodologiques, oui, parce que il faut qu'on arrive à identifier les molécules potentiellement qu'on n'est pas capable d'identifier, mais ils sont aussi mathématiques, ils sont statistiques, ils sont vraiment multidimensionnels. Il faut que le clinicien puisse arriver à se l'approprier, et ça va vraiment, c'est toute une échelle de données et de verrous qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Et en fait, on s'aperçoit que on est à un niveau où on est en train de changer de paradigme et de façon de voir la science, en fait. Pendant très, très longtemps, on avait une vision de la science où, en fait, en gros, le chercheur, il disait, j'ai une hypothèse, ça va marcher comme ça. Pour pouvoir tester mon hypothèse, je vais faire cette expérience-là. Je regarde les résultats, j'intègre, j'analyse les résultats, et puis je vais construire une nouvelle hypothèse parce que j'ai eu de la connaissance à partir de cette analyse-là. Et en fait, maintenant, avec la capacité d'avoir toute cette information-là, on est en train de changer de paradigme. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de dire, on a toutes les données. Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces données? Qu'est-ce qu'elles nous apprennent? Comment est-ce qu'on peut arriver à extraire de la connaissance? Laissons parler les données et essayons, à partir de ces données-là, de construire des hypothèses et de faire de telle sorte que là, on va faire des expériences. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle de la biologie des systèmes. On essaye de faire parler les données. Et donc, en fait, c'est vraiment une approche qui est vraiment une approche qui est vraiment différente et où on veut essayer d'analyser beaucoup de choses chez, pour l'instant, pas beaucoup de monde. Et puis, on veut arriver vraiment à faire de telle sorte que, ben, on analyse beaucoup plus de choses encore pour pouvoir arriver à faire de telle sorte qu'on analyse chez beaucoup, beaucoup plus de monde. Et en fait, ben, cette biologie des systèmes qui nous permet de dire ben, on va faire parler les données en tant que telles, eh ben, elle peut contribuer à faire de telle sorte que... Eh ben, elle va nous permettre de mieux comprendre ce qui se passe au niveau de notre système et faire de telle sorte que la nutrition, on va peut-être mieux comprendre ce qui se passe, mais aussi la médecine va être de façon un petit peu plus, connectée avec ce qui se passe réellement. Et en fait, ben, avec ces analyses de biomarqueurs, on peut avoir des analyses, on peut avoir des biomarqueurs d'effet, parce que si on donne une molécule et puis qu'on s'aperçoit que un aliment par exemple excusez-moi, on donne un aliment et puis on voit que finalement ben, X heures après dans nos urines ou dans notre sang, il y a un marqueur qui apparaît, ben, on peut dire ah ben on a cette molécule-là qui est un marqueur de consommation de tel aliment. Et puis, on peut avoir un effet biologique, donc on peut avoir des marqueurs d'effet en tant que tel. Donc, en fait, toute cette agrégation de marqueurs peuvent nous permettre de vraiment d'arriver à mieux comprendre les choses et arriver non seulement à des recommandations nutritionnelles plus personnalisées, parce qu'on comprendra mieux ce que nous sommes, mais aussi potentiellement une médecine plus personnalisée en tant que tel. Et donc, en fait, maintenant... on est en train de aussi changer les choses. C'est-à-dire que là, je suis en train de vous pousser un peu le curseur vers plus loin vers la science-fiction. C'est-à-dire, comme je vous disais jusqu'à maintenant, on mesurait beaucoup de molécules chez pas beaucoup de monde. Okay. Après, on dit bah, il faut valider chez plus un grand... On mesure beaucoup de molécules chez pas beaucoup de gens. Et puis, on valide ce petit nombre de molécules chez beaucoup plus de gens. Et en fait, on est en train de se dire, bah, finalement... est-ce qu'il ne faudrait pas faire beaucoup plus de molécules chez beaucoup plus de gens? Et en fait, on arrive à un système qui est vraiment plus complexe et on est en train vraiment d'évoluer vers un système intégratif de biologie prédictive, de biologie de précision, etc. Et vous avez probablement entendu parler de l'évolution vers la médecine personnalisée. Autrefois, la médecine, elle était définie avec des noms de médecins, la maladie d'Alzheimer, etc. Maintenant, ben, en fait, on se dit ben, il faut qu'elle soit plus personnalisée et qu'elle prenne en considération les caractéristiques individuelles des patients. Et en fait, ben, il y a eu, depuis quelques années, la définition de la médecine 4P qui doit être préventive, participative, personnalisée et prédictive. Et donc, en fait, on essaye d'arriver à faire telle sorte que finalement, on va prendre les choses d'une façon un peu différente et on va faire de telle sorte que, ben, on ait une vision plus globale des choses. Et il y a un très gros projet européen qui a été développé par un de nos collègues avec qui on a travaillé dans un projet européen, où ils ont défini un système de nuages dans lequel ils prennent toutes les informations de tous les hôpitaux en Allemagne, qu'ils mettent dans un cloud sécurisé, et ils espèrent pouvoir arriver à faire de telle sorte que si on met toutes ces données-là ensemble et qu'on les agrège, on va pouvoir avoir une force de frappe pour arriver à mieux définir et mieux comprendre tout ce qui se passe. Et donc, en gros, le devenir et les objectifs de toutes ces approches-là, c'est d'arriver à faire de telle sorte qu'on passe d'une définition clinique en tant que telle des gens à une définition plus moléculaire et faire de telle sorte que ben, finalement, on ait les données génétiques, les données métaboliques, les données cliniques, les données socio-économiques qui font que finalement, on ait une agrégation de tout ça. Et du coup, on peut arriver à mieux comprendre ce que nous sommes et d'arriver à mieux comprendre comment est-ce qu'on est différent en tant que tel. Et arriver à mieux comprendre nos différences inter-individuelles. Alors, tous ces gens-là, ils ont tous la même présentation clinique en tant que tel. Ils sont tous diabétiques, ils sont tous cancéreux, pas cancéreux. Mais finalement, si on les décline par leurs différentes données, on s'aperçoit qu'ils ne sont pas tous identiques. Et donc, notre santé, réellement, là, je vous parle simplement de données cliniques, mais finalement, eh ben, on est au-delà de la biologie. Et finalement, ben, il faut qu'on arrive à comprendre et agréger des données autres que biologiques à notre caractéristique biologique pour arriver à définir notre état de santé. Voilà. Et donc, en fait, ben, on arrive à ce qu'on appelle de la médecine de précision, et Obama a lancé, alors je ne sais plus à combien de millions de dollars ça a été financé en tant que tel, pour pouvoir arriver à mieux définir en tant que tel, mieux arriver à préciser les choses au niveau de la médecine et arriver à avoir une approche clinique différente et avoir une approche clinique je dirais plus préventive en tant que telle, parce qu'en fait, une fois de plus, quand on arrive à la maladie, quand on arrive chez le médecin, on a une approche. Bien souvent, on va chez le médecin quand c'est trop tard. Et une fois que le médecin arrive et nous dit « Ah ben là, vous êtes malade ben », finalement, il n'a pas d'autres outils pour faire telle sorte. « Ah bon, ben, il faut qu'on prenne des médicaments ». Et si on a des outils, on a des marqueurs qui font de telle sorte qu'on a des signes avant-coureurs, le médecin pourra dire « Ah ben attention », et on aura une approche préventive vraiment plus efficace. Mais nos sociétés ne sont pas encore très très fortes là-dessus. Et en fait, ben, ceci ouvre l'approche à quelque chose qui est encore plus important, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on est en train de se dire, ben, on a collecté toutes ces données depuis des années. En fait, est-ce qu'on est capable de mettre ensemble toutes ces données collectées ? Et donc, il y a des projets qui se font à très très grande échelle, et donc là il y a cet exemple de médecine de précision qui se fait au niveau global sur plus de 100 000 individus. Et donc, en fait, ils veulent essayer d'arriver à définir sur ces centaines de milliers d'individus quelques centaines de molécules et arriver à définir les phénotypes en tant que tels individuels, et puis estimer potentiellement l'importance des facteurs génétiques, parce que, ben, une fois de plus, le diabète de type 2 des Asiatiques est probablement pas le même que le diabète de type 2 des Américains, et qui est peut-être pas le même que le diabète de type 2 que les Européens. Et donc, en fait, en agrégeant toutes ces informations-là, on va peut-être pouvoir arriver à mieux comprendre et mieux définir en tant que telles les choses. Et donc, alors, ben ça, c'est des initiatives qui sont faites sur des centaines de milliers d'individus, mais ça, c'est quand même assez exceptionnel. Et en fait, il y a un certain nombre d'initiatives plus européennes, voire même nord-américaines, qui se font sur des milliers d'individus, où là, ben, on essaye de définir les choses de façon un peu identique, c'est-à-dire qu'en fait, ben, on va vouloir essayer d'arriver à mesurer des milliers de molécules sur des gens, essayer d'arriver à comprendre les facteurs qui changent, quelle est l'importance du style de vie, de l'activité physique, et d'arriver à définir comme des sortes de profils en tant que tels d'un état biologique particulier, et de dire, ben, on a des signatures de gens, et du coup, on va pouvoir arriver à mieux comprendre tout ça. Et avant de finir, je dirais qu'en fait, ben, il y a aussi ce souci de se dire, ben, on a toutes ces données-là, et est-ce qu'on est capable de toutes les mettre ensemble ? Et en fait, il y a une initiative qui a été américaine, ou qui s'est dit, ben, est-ce qu'on est capable de mettre ensemble toutes les données des cohortes qui sont publiées depuis des années, est-ce qu'on prend toutes ces données qui sont publiques, et est-ce qu'on est capable de les agréger, et est-ce qu'on est capable de faire de telle sorte qu'on retire de la connaissance ? Eh bien, en fait, le problème, c'est que, ben, quand on regarde tout ça, on n'est pas capable réellement d'extraire la connaissance. Parce que ça vous surprendra peut-être, mais quand on publie les choses, normalement, on devrait vous dire, ben, je vais travailler sur X centaines d'individus, et puis ils ont tel âge, et puis ils sont potentiellement caucasiens, ils sont peut-être africains, ils sont peut-être asiatiques, et de tel... Et puis, eh ben, est-ce qu'ils ont... Alors, on dit, ils sont cancéreux. D'accord, ils ont... On les définit comme cancéreux. Puis si vous regardez ce qui est publié comme les données cliniques de ces gens-là, il y a beaucoup d'articles où on n'a même pas l'information. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils sont cancéreux, on sait qu'ils sont diabétiques. Donnez-nous, partagez-nous les données de diabète qu'ils ont. C'est même pas disponible. Donc finalement, oui, c'est bien de vouloir agréger toutes ces données-là, mais il faut qu'on fasse un effort pour pouvoir arriver à faire telle sorte que toutes ces données soient homogénéiser et qu'on puisse extraire de la connaissance. Et de nouveau, il y a des défis mathématiques, informatiques qui sont important et qu'il faut qu'on règle en tant que tel. Et finalement, quand on regarde les informations disponibles de tout ce qu'on a analysé depuis des années, finalement, ce n'est pas si important que ça. Et il y a une étude qui a été faite où ils ont essayé de commencer à corréler tout ce qui a été publié dans les maladies non transmissibles et regarder toutes les connaissances en tant que telles qu'on peut extraire et les associations qu'on peut faire pour pouvoir arriver à mieux regarder ce qu'on connaît au jour d'aujourd'hui. Donc, tout ça pour vous dire que, oui, on a des mesures, on était capable de faire beaucoup plus de mesures, et puis on essaye d'agréger avec tout ce qu'on a actuellement, mais on a un certain nombre de défis mathématiques et informatiques et statistiques et multiples pour pouvoir arriver à faire parler toutes ces données-là. Et donc, en gros, ben, je dirais que pour finir, en gros, ben, oui, il y a des choses, on avance. Il faut qu'il y ait des interactions, il faut qu'on décloisonne les choses. Alors, ben, on a de la connaissance, on en gagne. Mais en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, cette image-là, je pense qu'en fait, elle, c'est quand même un reflet de ce qu'est la réalité. Et pour pouvoir avancer, ben, c'est clair que c'est indispensable d'avoir une vision vraiment décloisonnée, faire de telle sorte que finalement, on n'est pas simplement les médecins qui travaillent avec les biologistes, il faut vraiment qu'on ait une vision du travail qui soit interdisciplinaire et que les généticiens travaillent avec les statisticiens, qui travaillent avec les informaticiens, qui travaillent avec les gens qui utilisent Internet et qui travaillent avec les gens de la biologie moléculaire. Donc, il faut vraiment qu'on ait une approche multidisciplinaire, intégrative, pour pouvoir arriver à faire tout ça. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu qu'il y a des choses qui avancent. Avant de m'arrêter, je vais simplement vous dire que ce travail-là, c'est vraiment un travail multidisciplinaire qui implique des gens, des sociologues, des statisticiens, des chimistes, des gens qui travaillent sur les cohortes. Et puis, ben, on a du support financier. C'est jamais assez pour les chercheurs. Ils sont jamais suffisamment dotés. Et puis, voilà. Ben, je serais contente de répondre à certaines de vos questions si vous en avez.
Bonjour, merci pour votre présentation. Dans les mesures que vous faites des métabolites dans les cohortes européennes, par exemple, est-ce que vous tenez compte, par exemple, des pesticides et autres molécules exogènes, ou vous tenez compte que des molécules qu'on retrouve, des molécules métaboliques qu'on retrouve dans le sang, par exemple ?
Alors, dans le sang, on retrouve des pesticides, bien évidemment. Alors, personnellement, on n'est pas spécialisé dans l'analyse des pesticides. Au niveau français, il y a une plateforme spécifique dédiée à l'analyse des pesticides qui est à Toulouse, qui fait partie du gros nœud français de métabolomique et de fluxomique à Toulouse. Mais on est capable d'identifier, et ça nous est arrivé, alors je vous donne un exemple, hein, des gens qui travaillaient sur un projet sur le cancer, et on a trouvé qu'en fait, des gens qui mangeaient énormément de pommes, on a trouvé un plastifiant qui est associé, c'est-à-dire qu'on ne sait pas réellement est-ce que c'est ça, mais on trouve des molécules, des plastifiants qui sont associés à la consommation de pommes et chez les gens qui ont le cancer. Donc oui, c'est des molécules qu'on trouve parce que parmi les pesticides qu'on ingère, il y en a un certain nombre qui passent dans le sang. Après, il faut arriver à les identifier et nous, personnellement, on est plus associé à des marqueurs plus de consommation d'alimentation. Mais il y a des bases de données et les bases de données sont en train de s'enrichir et on essaye de mettre tout ensemble pour faire telle sorte que finalement, on ait plus d'informations.
Et je terminerai en vous demandant, est-ce que vous n'espérez pas finalement un GIEC de la médecine, c'est-à-dire un groupement international qui permettrait de recruter des cohortes de chercheurs, pour le coup, afin d'analyser ces données à l'échelle internationale? Est-ce que ce n'est pas ça finalement qui manquerait pour faire vraiment évoluer la médecine vers la médecine de demain?
Alors, un GIEC de la médecine, je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est que Il y a beaucoup d'efforts quand même au niveau international. Alors, constituer des cohortes et faire une cohorte vraiment, je dirais, mondiale, c'est compliqué. Parce qu'en fait, oui, vous avez peut-être parmi vous quelques-uns qui ont accepté de participer à Nutrinet Santé. Bon, on a fait appel à tous les gens qui voulaient accepter de faire, de donner son ressenti par rapport à ses habitudes alimentaires, etc. Mais faire une cohorte mondiale en tant que telle, c'est compliqué parce qu'il faut savoir en gros qu'est-ce qu'on veut chercher et une fois de plus, quels sont les outils de référence et qu'est-ce qu'on considère comme important en tant que tel. Et quand on voit les disparités culturelles, environnementales, l'importance de l'alimentation, etc., arriver à faire quelque chose qui a du sens au niveau mondial, au jour d'aujourd'hui, je pense que ce n'est pas encore tout à fait réalisable. Il y a des cohortes internationales, il y a des choses qui se font. Est-ce qu'on arrivera à faire quelque chose vraiment d'homogène? Je ne sais pas. Après, un GIEC de la médecine en tant que telle, je ne sais pas encore si les médecins sont assez ouverts pour pouvoir arriver à tous se mettre ensemble, même s'il y a beaucoup de congrès, puis il y a des choses qui changent, hein, je ne dis pas ça. Mais il y a encore quand même un certain nombre d'obstacles avant de pouvoir y arriver.
Bonjour et merci aussi. Moi je pense qu'il y a une question aussi qui est inévitable, qui va tomber. Dans le puzzle à la fin, il y a peut-être le législatif aussi qui peut être intéressant. Parce que moi, je suis totalement convaincu de ce que vous faites. Et pour moi, c'est ça la médecine telle qu'elle devrait être aujourd'hui. Mais il faut faire attention aux dérives qu'il peut y avoir. Par exemple, bon, au niveau des données personnelles, évidemment. Et aussi, vous avez parlé du test sur les nouveau-nés. Si ça peut être fait sur les fœtus aussi, est-ce que ce n'est pas un risque derrière?
Alors,
faire intervenir aussi le législatif pour cadrer les choses aussi en amont.
Mais ça, c'est comme quelque chose de très, très important, c'est sûr. Après, les tests sur les fœtus, voilà, y a encore un certain nombre de... Voilà. Les données personnalisées, honnêtement, alors, en plus, je peux vous dire, les cohortes, les épidémiologistes, les gens qui ont des cohortes, c'est leurs outils de travail. D'accord ? Et donc, en fait, s'ils partagent toutes les données, et si toutes les données des cohortes partent publiées, ils n'ont plus d'outils de travail. Donc en fait, quand vous publiez des données de cohortes, les cohortes sont assez smart et je pense qu'elles ont d'un certain côté une certaine légitimité de dire on garde les données initiales. Vous avez le droit de publier les données de moyenne, les données agrégées en tant que telles, c'est-à-dire bon ben ces gens-là, ils ont une moyenne de temps, ils ont tel âge, la moyenne est de temps, mais je n'ai pas le droit de publier le monsieur X, même si c'est anonymisé X fois, je n'ai pas le droit de publier que le monsieur X a tel âge, même si c'est X, on ne saura jamais qui était monsieur X. Et donc, en fait, ces données-là sont encore protégées en tant que telles, au jour d'aujourd'hui. Et si vous voulez travailler avec des données génétiques, publier des données génétiques, c'est encore plus compliqué. Donc, je dirais que pour l'instant, il y a encore un certain nombre de pare-feux qui fait de telle sorte que toutes nos données ne sont pas sur le cloud, ne sont pas sur Internet. Après, si vous, sur vos téléphones, vous acceptez de partager toutes vos données, ça, c'est autre chose. Et toute cette recherche qui se fait avec ces outils connectés, ça, c'est autre chose. Et probablement que là, il y a des éléments législatifs et de protection de la vie privée qui doivent être compris en considération. Ça, c'est certain. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Absolument. Et quand on discutait avec notre collègue allemand qui a fait ce gros projet européen sur de nuages de cloud pour pouvoir arriver à collecter toutes les données de 4 hôpitaux allemands, toutes ces données sont sécurisées. Il y a tout cet aspect de sécurisation des données et d'anonymisation, etc. etc. C'est encore très, très protégé. Et je pense que les chercheurs sont suffisamment, je dirais, alertes pour pouvoir faire de telle sorte qu'on ait... On essaye de protéger l'identifier la, 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 l'identité des gens. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est très, très important à garder à l'esprit.
Merci. En fait, moi, la question que je me pose, ça concerne le financement de vos recherches. Parce qu'on sait que les chercheurs ont besoin de financement pour mener à bien leurs travaux. Et toutes ces recherches, ça coûte cher. Et moi, en vous écoutant, enfin, je suis très admirative de ce que vous faites. Et en même temps, je me dis, mais ça va complètement à l'encontre des intérêts des industries, de l'industrie pharmaceutique notamment, et de beaucoup d'autres industries aussi. Et comme on sait que ces industries financent pas mal, je me pose la question si, enfin, il y a des lobbies qui vont, enfin, s'il y a des financements directs, mais il y a aussi des lobbyistes qui travaillent. Voilà. Je me pose la question si les recherches dans votre domaine ne rencontrent pas des obstacles.
Alors, est-ce que nos recherches rencontrent des obstacles? Oui. Parce que, comme vous dites, c'est des projets qui sont chers. Simplement, pour vous dire, il y a deux jours, j'ai déposé un projet à l'ANR. On fait un petit projet, trois cohortes, une européenne, deux françaises, une canadienne. On essaye d'analyser un petit peu ce que je vous ai présenté, un peu même image. On demande à l'ANR, sans prendre l'argent qui vient du Canada, parce qu'on a un Canadien qui est dans notre projet, on demande 750 000 euros à l'ANR. D'accord ? Donc oui, notre recherche, elle coûte cher. D'accord ? Mais d'un autre côté, une fois de plus, cette recherche-là, elle va toucher, elle est large, elle nous permet d'avoir une connaissance large en tant que telle. Elle va pas chercher, elle peut toucher et avoir des impacts au niveau de la société qui sont relativement importants en tant que telle. Donc oui, c'est important. Après, est-ce qu'il y a des lobbies qui peuvent nous empêcher d'avoir de l'argent ? Je ne sais pas. Enfin, au jour d'aujourd'hui, on travaille, nous, personnellement, avec la recherche fondamentale. On ne travaille pas avec la recherche industrielle. On a des moyens de travailler. Voilà. Est-ce qu'on en a assez ? Probablement pas. On n'est jamais assez content, mais c'est compliqué. Et le problème, c'est qu'on n'a pas souvent les preuves comme quoi les lobbies nous empêchent de travailler. C'est ça. Ils sont suffisamment smart pour faire telle sorte qu'on n'ait pas les preuves non plus.
Au début, vous disiez que ce qui vous intéressait, c'était vraiment le lien alimentation-santé, enfin, une des choses qui vous motivait. Du coup, alors c'est vrai que on a quand même des notions qu'effectivement le régime méditerranéen, c'est des choses qui sont plutôt bonnes pour la santé. Est-ce qu'avec toutes les analyses omiques que vous avez pu faire, ça se prouve? Parce que les gens qui vivent vieux en Grèce, etc., donc il y a des preuves autres que ces méthodes-là, mais est-ce que les analyses que vous conduisez identifient ce qui est bon dans les... le régime méditerranéen, est-ce que vous avez ce type de corrélation? Parce qu'on a l'impression qu'il y a tout à découvrir, alors qu'il y a quand même des choses qu'on sait, les fruits et légumes, les fibres, etc. Et on ne voit pas ça du tout transparaître dans ce type de...
Alors, en fait, je n'ai pas voulu vous présenter les choses de façon... j'ai vraiment voulu vous présenter les choses de façon globale. Une fois de plus, oui, on a des informations comme quoi, oui, le régime méditerranéen pourrait avoir des effets. Oui, un régime riche en fibres peut avoir des effets bénéfiques sur le développement du cancer, enfin, un effet bénéfique pour empêcher le développement de certains cancers. Oui, certains crucifères peuvent être vraiment protecteurs sur le développement de certains cancers, comme par exemple le cancer de la prostate ou du sein. Il y a des choses, mais c'est encore très séquentiel. Et une fois de plus, alors un des verrous, puis je vous en ai pas parlé, c'est qu'aussi une des choses auxquelles on fait face, c'est que finalement quand on agrège les données, ces données de questionnaire alimentaire avec les molécules qu'on a dans le sang. Mais finalement, les questionnaires alimentaires, c'est quelque chose... Alors, les gens répondent au mieux qu'ils sont capables de répondre. Mais une fois de plus, c'est des données qualitatives. C'est est-ce que je mange des fruits et légumes ? Oui. Non. Est-ce que je mange des pommes et combien de pommes je mange ? Est-ce que je bois du vin et combien de vin je bois par jour ? Et en fait, agréger ces données-là et mettre ces données-là ensemble, on a quand même quelques verrous mathématiques à agréger ces données, je dirais, vraiment non quantitatives avec des données quantitatives. Et ce qui nous, et c'est un des champs de recherche sur lequel un certain nombre de gens travaillent, c'est d'arriver à trouver des marqueurs de consommation qui soit plus objectif que simplement des gens qui répondent à des questions. Oui, je mange beaucoup, je mange pas beaucoup, je mange une petite portion, je mange pas de beaucoup de petites portions, et d'arriver à avoir des marqueurs de consommation en tant que tel et de marqueurs des aliments qu'on mange. Et alors oui, on a des choses, des informations, des connaissances, mais c'est encore partiel, et c'est pour ça que je ne voulais pas complètement vous expliquer ça, parce que je trouve que c'est encore des petits bouts de connaissances et qu'il faut plus de choses. Et il y a des grosses initiatives européennes qui travaillent sur identifier des marqueurs de consommation, marqueurs de bananes, marqueurs de pommes, marqueurs de choses, pour faire telle sorte qu'on ait des données plus objectives que simplement, oui, la diète méditerranéenne a des effets sur la santé, des effets bénéfiques sur la santé. On a des effets indirects, on a des données, mais il faudrait les consolider. Voilà.
Oui, Blandine, moi je voulais savoir, en termes de biologie prédictive, si tu arrives effectivement à montrer à quelqu'un, le médecin dit attention, vous êtes en train de partir vers la pathologie, mais vous êtes au démarrage et vous pouvez faire marche arrière. Du coup, ça repose énormément sur la bonne volonté du patient. Et comment est-ce qu'on peut prendre ça en compte ?
Alors, cette biologie prédictive, elle existe depuis un certain nombre de temps, parce que si dans l'assemblée je fais est-ce que vous savez si la consommation de tabac a des effets sur le développement du cancer du poumon ? Il n'y a personne aujourd'hui qui me dira ben non, je ne sais pas. Okay ? Une fois de plus, d'abord, c'est de la statistique, cette biologie prédictive, c'est un risque de développer, ça n'est pas quelque chose d'objectif, d'accord ? Et une fois de plus, c'est quelque chose, il faut qu'il y ait un processus d'adhérence en tant que tel. Alors oui, il y a des gens, il y a quelques années, il y a des gènes qui ont été associés, par exemple, au cancer du sein, d'accord ? Et il y a toute une population qui est très à risque, qui sont les juifs ashkénazes, du fait de leur génétique. Ils sont extrêmement à risque à développer, les femmes ont énormément de risques de développer le cancer du sein. D'accord ? Est-ce que personnellement, étant juif ashkénaze, je veux décider que le risque de développer le cancer du sein est suffisamment grand pour moi pour faire telle sorte que je me fasse enlever les seins, c'est quelque chose de purement personnel. Et puis, vous avez peut-être entendu parler d'une grande actrice qui s'est fait non seulement faire l'ablation des deux seins et de l'utérus, parce qu'elle s'est dit, moi, le risque pour moi, je ne veux pas le prendre, c'est trop grand pour moi, je n'accepte pas, et donc je prends cette décision-là. Après, c'est la même chose pour les signatures biologiques, pour faire de telle sorte que je suis à risque de développer le diabète de type 2, j'ai tel profil. Est-ce que je décide que je prends une option pour faire telle sorte que mon métabolisme se réverse vers un processus de santé, ou je dis, moi, le plaisir de ma vie, c'est de manger gras, sucré, salé, autant que je veux, quand je veux. Je bois, je profite de la vie, je fume quand j'ai envie de fumer. Fine, dans le sens où c'est d'un certain côté... ne pas considérer la médecine comme le choix de dire ben, c'est la médecine qui décide de mon ma santé. C'est aussi de se dire ben, moi j'ai un poids, j'ai une décision, je peux prendre le choix et je peux prendre la décision de dire ben, je vais dans un sens ou je vais dans l'autre. Une fois que la maladie est installée, c'est trop tard. Et donc finalement, on est avec le médecin en disant ben, ok, est-ce que je décide de me soigner ou pas me soigner ? Ça, c'est juste noir et blanc. Enfin, c'est 1-0. Je décide de me soigner, j'ai le cancer, je prends le risque de mourir plus tôt ou de guérir. Là, si c'est, on est en amont, on a quand même un pouvoir décisionnel et de prendre notre vie en charge qui est plus grand. Mais ça, c'est personnel et je pense qu'on ne peut pas décider. C'est à chacun de décider pour soi.
Donc vous avez dit que, en fait, vous avez eu la surprise de constater que, à partir de 65 ans, en fait, les hommes et les femmes étaient différents au niveau de comment de ce que vous avez dit que, en fait, les hommes et les femmes on dit qu'ils sont pareils, mais en fait, vous êtes rendu compte qu'il y avait quand même de grandes différences, voilà. Et ma question portait sur, à partir de cette découverte, est-ce qu'il y a eu des projets en recherche fondamentale pour pour essayer de voir comment ça se passe du côté des hommes, du côté des femmes, parce que je sais que il n'y a pas eu beaucoup de recherches faites spécifiquement autour des femmes. Donc voilà, je voulais savoir.
Alors, c'est un très bon point et c'est vrai. Alors, pendant très longtemps, par exemple, on a considéré que les femmes, du fait de leurs hormones, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on met sur les hormones des femmes, elles étaient protégées des maladies cardiovasculaires. Et qu'en fait, les hommes, ils avaient des maladies cardiovasculaires et les femmes, elles étaient protégées. Mais en fait, on s'est aperçu qu'en fait, elles étaient tellement protégées qu'en fait, elles étaient protégées parce qu'on ne regardait pas si elles avaient des maladies cardiovasculaires. Et si on regardait réellement comment elles étaient atteintes par les maladies cardiovasculaires, elles sont plus atteintes par les maladies cardiovasculaires. Et la recherche des médicaments et la recherche, oui, est faite beaucoup chez les hommes. Et maintenant, dans certains appels d'offres européens, c'est très important, c'est marqué spécifiquement analyse, définition, effet du sexe. D'accord ? Néanmoins, et moi, je vous avouerai que j'ai fait un projet autre sur le diabète de type 2, mais chez des jeunes hommes et des jeunes femmes. Et puis, j'ai développé d'autres projets et je me suis dit, j'ai tant d'argent. Est-ce que, au début, j'ai dit, j'aimerais vraiment analyser les hommes et les femmes. Mais le problème, c'est que ça coûte plus cher. Et si vous voulez avoir le pouvoir statistique suffisant pour pouvoir arriver à avoir des résultats significatifs, il faut faire un choix. Et si vous voulez essayer d'agréger ce qui est connu dans la littérature et ce que vous pouvez aller chercher, j'étais obligée à un moment donné, une fois, et une fois de plus, personnellement, c'est un problème éthique qui me gêne, d'analyser uniquement les choses chez les femmes. Mais une fois de plus, je pense réellement, et le projet que je viens de déposer, c'est chez les hommes et chez les femmes, il faut vraiment, vraiment développer plus de recherches chez les femmes parce qu'on a pris pour acquis pendant très longtemps que les hommes et les femmes, c'était la même chose, surtout quand ils sont âgés, parce que la ménopause est là et parce que l'andropause est là et que ça se ressemble. Non, on ne se ressemble pas tant que ça, même quand on est vieux. Alors, quand on est plus jeune et que les hormones changent, c'est encore plus compliqué. Et oui, il faut faire plus de recherches sur les hommes et sur les femmes et sur les différences. J'en suis convaincue. Oui, c'est sûr que de toute façon, oui, de toute façon, mais c'est sûr. Et puis, une fois de plus, on s'aperçoit que le traitement médical va changer parce que si on connaît mieux ce qui se passe chez les hommes et chez les femmes, le traitement médical pour les hommes et pour les femmes ne va pas être le même. Donc, l'approche thérapeutique va être différente. Merci beaucoup pour votre attention et bon après-midi.
Littérature,
cybernétique,
prospective,
science-fiction,
liberté,
utopie.
We can face any future.
Any future.
Le podcast. podcast des Utopiales. Utopiales 2021.